Radiographie vous propose tous les samedis entre 12h et 13h de vous tenir informés de l'actualité scientifique. C'est dans l'émission Biotine, tous les samedis sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur internet. C'est Jean-Noël avec vous pendant une heure. Dans cette émission Biotine, je suis très content de vous retrouver pour ce 11 janvier 2020. Mon Dieu, alors la semaine dernière dans l'émission de reprise pour cette décennie 2020, on a fait un peu le point sur les années 2010. Hein. On a vu un petit peu ce qui avait été vraiment les éléments marquants en termes de recherche scientifique et médicale, en termes de développement des nouvelles technologies. Et on va continuer un petit peu de faire le point sur la revue de presse de l'actualité scientifique. C'est ça, Biotine, tous les samedis sur l'antenne de Graphite pendant une petite heure jusqu'à 13h. Nous allons un petit peu nous tenir informés, aller dans les étoiles, rester sur Terre et voyager dans différents pays pour voir ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier. C'est ce que je vous propose. On démarre, comme tous les samedis dans cette émission, avec l'éphéméride. Nous sommes donc le 11 janvier. Pas mal de choses d'un point de vue science et technique. En 1797, William Herschel découvre Titiana et Oberon. Ce sont les deux plus grands satellites naturels d'Uranus. Il y a déjà quand même assez longtemps, en 1797, un 11 janvier. Au XXe siècle, c'est le premier succès dans le traitement du diabète par l'insuline qui est donc premier succès qui a eu lieu le 11 janvier 1922. En 1978, deux cosmonautes soviétiques amarrent leur vaisseau spatial Soyouz à la station orbitale Salyut 6. Ils rejoignent deux autres cosmonautes qui étaient amarrés à la station depuis la fin de 1977 et en fait c'est un pas important en 1978 vers l'établissement d'une station orbitale permanente, la fameuse station spatiale internationale, bien sûr. Plus près de nous, en 2002, des chercheurs de l'Université de Californie annoncent avoir mis au point le premier test de dépistage précoce de la maladie d'Alzheimer. Et enfin, le 11 janvier 2007, la Chine procède à la destruction d'un de ses propres satellites au moyen d'un missile. C'était quand même assez impressionnant. C'était en 2007. Il est né un 11 janvier, il y a déjà très longtemps, c'était en 1638, Niels Stensen, anatomiste, géologue et évêque d'origine danoise. Il est donc né un 11 janvier. Il fut l'un des premiers à formuler des principes en géologie, une branche qui était alors peu connue des sciences naturelles. Le plus connu de ces principes est le principe de superposition. En fait, l'idée de la couche supérieure d'une succession sédimentaire est toujours plus récente que les couches qui sont sous-jacentes. Donc l'idée de la superposition, bien sûr, à moins qu'il y ait des remaniements ultérieurs, mais en général, c'est pas le cas. Et donc ça permet d'avoir un traçage un petit peu historique de tout ça. La vie de Niels Stensen, elle est en grande partie marquée par un conflit personnel, parce que, je vous l'ai dit, il est à la fois scientifique, géologue, anatomiste, et aussi évêque. Et donc, un conflit entre les explications religieuses des phénomènes naturels ayant cours et les découvertes scientifiques qu'il fit en ce domaine. Il est déclaré quand même bienheureux par Jean-Paul II en 1988 et sa devise était « Exactitude de l'expérience, résultat reproductible ». Niels Stensen. C'est intéressant d'avoir un exemple d'un scientifique et un homme religieux en même temps. Il est donc né un 11 janvier, nous étions dans le 17e siècle. Plus proche de nous, décédé un 11 janvier 1988, Isidore Isaac Rabi, chercheur, professeur de physique. Il était américain mais d'origine austro-hongroise. Il reçoit le prix Nobel de physique en 1944 pour sa méthode de résonance servant à enregistrer les procédés magnétiques du noyau atomique. Voilà, donc vous me ferez un petit résumé de tout ça, vous avez 4 heures. En fait, en 1940, il est mis en congé pour travailler sur le développement du radar et de la bombe atomique en tant que directeur associé du laboratoire des radiations du MIT, le fameux Institut de technologie du Massachusetts. Il accepte à contre-cœur de devenir un consultant avec obligation de se rendre souvent au laboratoire national de Los Alamos. Le général Groves insiste particulièrement pour le faire venir justement à Los Alamos. Il faut dire que Isidore Isaac Rabi était un ancien étudiant de Robert Oppenheimer qui gardait avec lui de bons contacts. Et tout ça, c'était essayer de l'aider à supporter la pression pendant les jours précédant le test de la première bombe atomique, bien sûr. Après la guerre, Isidore Isaac Rabi est le conseiller scientifique auprès du président américain Eisenhower. Et il va continuer ses recherches après la guerre, des recherches qui contribuent à l'invention du laser et de l'horloge atomique. Il est également l'un des fondateurs du CERN, l'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire. Isaac Rabi est donc mort le 11 janvier 1900. 88 à New York, chercheur et professeur de physique. Un élément vraiment important, un homme important dans ce domaine-là pendant le XXe siècle. Biotine vous permet donc de vous tenir informé de l'actualité scientifique. On va retrouver tout à l'heure Anne Fleur pour sa chronique InnoCity. Elle choisit une ville et je pense qu'on va revenir un peu en Europe cette fois-ci. Elle nous explique un petit peu les inventions qui ont été créées dans cette ville et aussi un peu de musique. Et bien on va commencer avoir un petit peu de musique dans cette émission. Et puis on se retrouve juste après pour commencer à tourner les pages de cette revue de presse de l'actualité scientifique.
J'habite actuellement dans une maison de retraite. C'est difficile de finir ainsi quand on a vu autant du monde. Est-ce que j'ai souri ? Je sais que j'ai dansé devant vous. Je vendais des arbres en fer dans la rue des commerces. Je suis une éphémère que vos regards renversent. Les rues de Pretoria sont vides. Le vent s'étale dans les townships. Les allées de Djobourg ou celles de Pretoria ont un point commun. Un point de couleur.
Un point de couleur.
Partout, cette même poussière dans l'air. Cette même poussière dans l'air. Cette même poussière dans l'air.
Dans les cheveux des grandes villes, aux tables d'étranges endroits, dans les vents chauds qui coiffent les incendies, dans les livres qui contiennent les forêts d'autrefois, partout, cette même poussière dans l'air.
Cette même poussière dans l'air. Je n'ai pas envie de digérer des agonies. Les autoroutes s'étendent en avant, brûlent de leur peau de serpent. Le sifflement de l'air sur la fenêtre nous envoûte. Nous avons croisé les agriculteurs d'hier, ils faisaient un grand écart avec leurs yeux. Nous avons écouté l'autre, celui qui parlait. Ses mains étaient un livre ouvert. Partout, cette même poussière dans l'air. Cette même poussière dans l'air.
Dans les vents chauds qui coiffent les incendies. Dans les livres qui contiennent les forêts d'autrefois. Cette même poussière dans l'air.
Maloya,
Bulbuli vol si la terre Maloya, Bulbuli vol si la terre Maloya,
Bulbuli vol, li vol si la terre Maloya,
Bulbuli vol si la terre Maloya, si la terre Maloya.
Poussière, c'était Graine Sémée sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique et vous avez bien raison. Alors, on va revenir sur une actualité qui a concerné la France. Et notamment le 11 novembre dernier, un séisme de magnitude 5 a eu lieu aux environs de la commune du Teil, en Ardèche. Le séisme se manifeste à la surface par une rupture de faille d'environ 4 km de long entre la commune du Teil et de Saint-Thomé. En profondeur, vers 1 km, les décalages de faille atteignent 30 cm. L'occurrence d'un séisme d'une telle magnitude en France métropolitaine à si faible profondeur, et ça est associé à un nombre particulièrement faible de répliques, eh bien tout ça en fait que ce séisme a des caractéristiques assez atypiques. Si bien que ces caractéristiques ont motivé le CNRS à former un comité d'experts afin de faire un point sur ce que la recherche et ses outils peuvent apporter comme éclairage sur ce séisme et les causes possibles. Cette étude n'a pas pour but de donner un avis sur la reprise d'activité de la carrière du Teil, ni d'évaluer le risque sismique sur les sites des centrales nucléaires voisines, Cruas et Tricastin par exemple. Ce comité d'experts, il y a des géophysiciens, des sismologues, des géologues et des modélisateurs, eh bien, ont livré un rapport avec des premières conclusions il y a quelques jours. Et on a donc plusieurs éléments qui vont pencher en faveur d'une cause naturelle et d'autres en faveur d'une cause industrielle. Alors, du côté d'une cause naturelle, on constate que certaines données indiquent un démarrage du séisme loin de la zone d'influence de la carrière. Le sens de mouvement de la faille est compatible avec la déformation naturelle de la région. Le fait que le séisme soit très superficiel n'est pas exceptionnel dans la région où il y a eu des micro-séismes très superficiels qui avaient déjà eu lieu il y a une bonne quinzaine d'années. Et enfin, les forces relâchées par le séisme sont bien plus grandes que celles induites par la carrière. La zone principale de mouvement sur la faille est en dehors de la zone d'influence de la carrière. Ça, ce sont les éléments qui penchent en faveur d'une cause naturelle. Mais il y a d'autres éléments dans ces conclusions qui vont pencher en faveur d'une cause industrielle. Il y a certaines données qui placent le point de démarrage du séisme très proche, voire un kilomètre en dessous de la carrière du Teil. La faille s'est activée essentiellement à moins de 1000 mètres de profondeur, alors que le plus souvent les séismes naturels se produisent à plusieurs kilomètres de profondeur. Enfin, l'extraction de roches de la carrière du Teil déforme la croûte et produit des forces dont les caractéristiques sont favorables à l'activation de la faille en question, située à environ 1 kilomètre plus bas. Voilà, donc au vu de ces éléments, l'hypothèse que l'activité de la carrière où il y a une extraction de roches, eh bien cette activité a contribué à déclencher le séisme ne peut pas être écartée, mais ce sont certainement des forces naturelles qui ont déterminé sa magnitude et son impact. Les effets sur le séisme du Teil des tirs de carrière et des infiltrations souterraines d'eau semblent peu probables au regard d'analyses préliminaires, mais restent à quantifier par des recherches encore un peu plus approfondies. De toute façon, le comité d'experts va poursuivre ses travaux. Ce comité n'a pas été en mesure d'évaluer la probabilité d'un nouveau séisme de taille similaire, voire plus grande dans la région. Toutefois, le séisme du Teil a pour le moment déclenché beaucoup moins d'activités sismiques qu'attendues. Les membres du groupe de travail sont toujours à l'œuvre et leurs travaux permettront de mieux préciser les différents éléments présentés dans le rapport, en particulier une meilleure précision et une cohérence entre les analyses de la localisation de l'épicentre du séisme qui est nécessaire pour pouvoir déterminer s'il a démarré ou non dans la zone d'influence de la carrière. Donc voilà, premiers indices qui sont annoncés suite à ce séisme du Teil le 11 novembre dernier, mais pour l'instant toujours pas de conclusion définitive dans le cas de ce rapport. On aura bien sûr la possibilité de pouvoir suivre l'actualité des comptes rendus, je vais y arriver, de ce groupe d'experts dans de prochaines éditions, bien sûr, de Biotine sur l'antenne de Graphite. On va s'intéresser à l'espace, parce qu'on ouvre donc la décennie 2020 et il est quand même évident que l'année 2020 va être vraiment importante d'un point de vue spatial. Alors il y a quelques jours, Mars 2020 a effectué avec succès, c'est le rover, il a effectué avec succès ses premiers tours de roue dans la grande salle du laboratoire de Pasadena, nous sommes près de Los Angeles, et il a ainsi obtenu son permis de conduire sur Mars. Et sa fenêtre de lancement pour Mars s'ouvre entre le 17 juillet et le 5 août prochain pour une arrivée sur Mars, notamment dans le cratère J0, prévu le 18 février 2021. On suivra ça, bien sûr, en direct. Je ne sais pas si ça tombe un samedi, j'ai pas vérifié, mais on suivra bien sûr cette actualité en direct Ça démarre cet été et ça arrive l'hiver prochain. Ce rover est conçu pour chercher des signes de vie. Donc, il emporte un grand nombre d'instruments différents qui vont nous aider à comprendre le contexte géologique et chimique à la surface de Mars et aussi collecter des échantillons dans le but de pouvoir un jour les rapporter sur Terre. C'est ce qu'a résumé à l'AFP Matt Wallace, qui est le responsable adjoint de la mission Mars 2020. Alors parmi tous ces équipements, il y a une kyrielle de capteurs, pas moins de 23 caméras pour la plupart haute définition et en couleur, et puis deux oreilles entre guillemets qui vont lui permettre d'écouter notamment les vents martiens. Le rover a une taille d'une voiture à peu près, hein, 3 mètres de long, 2,70 mètres de large. Il est doté de 6 roues, comme son prédécesseur, Curiosity. Hein, ça va lui permettre de passer les rochers, mais il est quand même pas bâti pour la vitesse. On n'est pas là pour battre un record de vitesse. De toute façon, il n'en a pas besoin parce qu'il doit parcourir à peu près 200 mètres en moyenne par jour. Donc ça va, à mon avis, il va pouvoir prendre son temps et c'est tout l'intérêt de cette mission. Il est équipé d'un mini réacteur nucléaire pour pouvoir lui fournir son énergie. Et il dispose d'un bras articulé long de 2,20 m et d'une foreuse pour pouvoir pulvériser des échantillons de roches prélevés dans des endroits qu'il aurait identifiés comme propices à certaines formes de vie et de molécules organiques. Nous cherchons une vie microbienne ancienne, voici des milliards d'années, à une époque où la planète Mars ressemblait beaucoup plus à la Terre, avec de l'eau liquide en surface, une atmosphère et un champ magnétique, c'est ce qu'explique Matt Wallace. Alors, une fois prélevé, l'échantillon sera transféré à l'intérieur du rover pour être hermétiquement, scellé dans un tube qui sera rejeté en attendant qu'une future mission martienne en prenne livraison. C'est un tout nouveau mécanisme que nous avons conçu et installé sur ce rover, probablement le plus complexe jamais envoyé dans l'espace. On vise un lancement en 2026 pour la prochaine mission qui irait sur Mars pour récupérer les échantillons. Donc là, on va prélever des échantillons, mais on va attendre 5-6 ans en fait pour pouvoir les récupérer par la suite avec une nouvelle mission, et les échantillons auraient alors rendez-vous avec un orbiteur qui va pouvoir les rapporter sur Terre. On pourrait avoir ces échantillons en main pour les analyser d'ici une décennie, donc d'ici la fin des années 2020 bien sûr. Mais la mission Mars 2020 est aussi donc tournée vers le futur, c'est ce qu'insiste hein, le responsable adjoint de cette mission, Matt Wallace. Je vois ça comme le précurseur d'une mission humaine sur Mars. Nous avons un équipement qui va nous permettre de fabriquer de l'oxygène à partir du dioxyde de carbone de Mars, à la fois pour les besoins d'une éventuelle présence humaine, bien sûr, mais aussi pour faire l'agent oxydant d'un carburant qui va nous permettre de quitter Mars pour le voyage retour, hein, c'est ce qu'il explique. La mission testera aussi les performances d'un drone hélicoptère pour voir s'il est possible de voler, ainsi que dans l'atmosphère de Mars, beaucoup plus ténue que celle de la Terre. Et Mars 2020 doit travailler durant au moins une année martienne, ce qui correspond à peu près à 2 années terrestres. Les rovers ont souvent largement dépassé leur espérance de vie, comme par exemple le grand frère, hein, Curiosity, qui a été posé en 2012 et qui est toujours en activité. Donc là, ce rover Mars 2020, elle est prévue 2 ans, mais on se dit que s'il continue à travailler, ça serait bien. Donc il va peut-être être efficace et opérationnel sur plusieurs années. On suivra ça, bien sûr. Mais voilà, c'est les dernières avancées de cette mission Mars 2020 qu'on suivra, bien évidemment, sur l'antenne de Graphite. Allez, on écoute encore un petit titre et on se retrouve juste après. On va rester dans l'espace. La NASA a publié les images du site où la sonde indienne s'est écrasée. On a enfin retrouvé, hein, on avait parlé en décembre qu'on avait complètement perdu cette sonde, et bien là on l'a retrouvée, la NASA a publié les images. On voit cela juste après ce titre sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
J'ai dribblé dans la vallée, les hommes et les années. J'ai grandi dans les vapes et vapoté jusqu'à me cramer. Noyé dans mon apnée, cadavre dans les allées. Visage cellophané, ils attendent que je me retourne pour me planter dans le dos.
adieu bientôt. J'ai plus de sessions gaming que de sessions studio. J'élimine, je les arrête. Prends mon cœur, tu le ramènes. J'suis détestable, j'suis l'autoportrait de la planète. Adieu bientôt. Adieu bientôt. Adieu bientôt. Adieu bientôt.
J'me regarde en face comme vérité. Est-ce que tout ça est mérité? Jamais en paix, pas dérivé. Ils traînent entre comptes vérifiés. Yeah, yeah. La vie me l'a prise, ma ville m'attriste. T'as le pourcentage d'une batterie faible. Doigt dans la prise pour me matrixer. J'veux me barrer, barrer à tout qui se perd. Et la boutique ferme, j'perds des heures. J'ai gardé semaine dans mes cauchemars, tête dans mes rêves. Je sais que j'y suis, pourquoi j'y reste? Mais si je m'enfuis, où est-ce que j'irai?
J'ai dribblé dans la vallée, les âmes et les années. J'ai grandi dans les vapes et vapoté jusqu'à me cramer. Noyé dans mon apnée, cadavre dans les allées. Visage cellophané, ils attendent que je me retourne pour me planter dans le dos. Adieu bientôt, j'ai plus de sessions gaming que de sessions studio. J'élimine, je les arrête, prends mon cœur, tu le ramènes. J'suis détestable, j'suis l'autoportrait de la planète. Adieu bientôt. Adieu bientôt. Adieu bientôt. Adieu bientôt.
Mama, mama, je me sens seul. Comme un rappeur insensible.
Je raconte des histoires qui font peur. Mon futur dans un incendie.
Et ne fais pas l'étonner le jour où je m'en irai. Très loin d'ici comme au Cirel. Et un habitué au microclimat qu'il y a dans mon hall. On a glissé nos cornes dans ton auréole. T'as une belle vue sur mes épaules. Dis pas que j'ai de la chance, elle a bon dos. Je vais couper mon funnel pour faire mode avion. De minimum platinium ou j'abandonne. Idée noire dans le brouillard. T'es ma lumière, bientôt tu me demanderas comment qu'on fait. Je sais pas, peu importe, moi je connais pas vos codes. Un jour t'as plus la cote, médite à l'occasion. Arc-en-ciel en polo Lacoste. Si loin du soleil dans la cave. J'entends sonner mais je te laisse à la porte. On a compris qu'on dérange, mais c'est eux qui dégagent.
Adieu bientôt. Adieu bientôt. Adieu bientôt.
Ah, je suis déjà mort. Et si tu m'aimes, dis-le-moi. Je m'efforcerai de te croire. Adieu bientôt. Adieu, au revoir.
Adieu bientôt, c'était Columbine sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et on va donc partir sur la Lune, qui va être aussi une destination assez intéressante de cette décennie qui s'ouvre. Un satellite de la NASA en orbite autour de la Lune a fini par trouver le site d'impact de la sonde indienne Vikram. La NASA a publié des photographies qui étaient prises en octobre et en novembre, des images sur lesquelles les scientifiques de la NASA sont parvenus, après analyse, à distinguer de faibles traces de l'impact et des débris projetés autour du site sous la violence du choc. Alors, retour en arrière, le 22 juillet dernier, l'Inde avait lancé sa mission Chandrayaan 2. La sonde principale qui fonctionne et est en orbite autour de la Lune a lâché l'atterrisseur Vikram quelques jours avant l'alunissage prévu. Mais à la fin de la descente, à une altitude de 2 km, eh bien, le contact a été perdu. Et à 1 km du point d'alunissage, eh bien, Vikram filait à une vitesse assez importante de 48 mètres par seconde, ce qui est quand même déjà assez important. Et l'agence spatiale indienne avait simplement annoncé avoir perdu le contact avec son alunisseur le 7 septembre dernier et avait finalement fini par reconnaître son crash. En septembre, un premier passage du satellite américain avait produit une série d'images du site, mais la lumière était mauvaise. Et la NASA avait à l'époque dit n'avoir pas trouvé de traces du crash. Mais suite à un appel de la NASA à la participation du public, eh bien, il y a un ingénieur en informatique indien. Il a 33 ans, il s'appelle Chanmuga Subramayan. Il a téléchargé ses premières images, il a trouvé des traces de débris, ce dont il a ensuite informé la NASA. J'ai comparé donc les deux images sur deux de mes ordinateurs portables. D'un côté, il y avait la vie vieille image et de l'autre la nouvelle image publiée par la NASA. Et il a été également aidé par d'autres utilisateurs, notamment de Twitter. Ils ont travaillé voilà, tous en commun. Au moins, les réseaux sociaux servent à quelque chose. Ça a été difficile, mais j'y ai mis les moyens. Et donc, la NASA avait alors repris des clichés le 15 octobre dernier, le 11 novembre dernier également, cette fois avec une meilleure illumination du soleil. Et donc, il est possible désormais de pouvoir avoir la preuve de l'impact. Alors, à l'œil nu, c'est quand même difficile de voir ça, mais en tout cas, ensuite, avec un matériel informatique assez développé, il est possible de pouvoir détailler ces fameuses prises de vue. Et donc, on a enfin les images du site où la sonde indienne Vikram s'était écrasée. C'était un peu dommage parce que l'Inde avait communiqué l'année dernière sur ce sujet-là, parce que voilà, elle partait aussi à la conquête de la Lune. Malheureusement, ça s'est mal terminé pour l'Inde, qui retournera vraisemblablement, mais on était dans une année où il y avait un nouvel acteur important de la conquête spatiale et notamment de la conquête de la Lune. C'était l'année dernière. Et donc, voilà, à la fin de l'année, on a enfin eu les preuves. Pendant un certain temps, on ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Et l'agence spatiale indienne avait quand même mis du temps à pouvoir admettre que c'était finalement un crash. Et donc, maintenant, on a les preuves. On va partir, on va rester en Europe, mais on va peut-être partir du côté de l'Italie, je pense. C'est Anne Fleur, tous les samedis, dans sa chronique InnoCity, je vais y arriver. Elle choisit une ville et elle nous explique un petit peu quels sont les inventions qui ont été créées dans cette ville. Et donc là, je pense qu'on va partir du côté de l'Italie, à mon avis. C'est ce qu'elle nous propose. Bonjour Anne Fleur, c'est à toi.
Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine de reprise et de début d'année. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous amène en voyage direction l'Italie. Et c'est directement à Rome que nous allons nous rendre. Vous le savez certainement, l'Empire romain est un des plus grands empires de tous les temps que l'on ait connu dans l'histoire. C'est aussi une des civilisations qui a eu le plus d'influence sur le développement du monde moderne tel que nous le connaissons. Et cette importance historique, en fait, et donc cette influence historique sur le reste du monde vient notamment du fait que c'était l'une des villes les plus grandes du monde à l'époque. Alors, Rome a rendu possible le Colisée, qui est une merveille architecturale et d'ingénierie de l'époque. Et si l'Empire romain fut absolument redoutable en ce qui concerne la guerre et toutes ses tactiques de combat, c'était aussi un véritable pionnier en termes de développement technique et technologique. Et c'est donc un empire qui fut à l'origine de beaucoup d'inventions modernes. Alors je vous propose aujourd'hui du coup une balade pour découvrir certaines de ces inventions. Je vous souhaite une bonne promenade. Alors la première invention, on l'utilise en fait tous les jours. Il s'agit bien entendu des chiffres romains. Alors les chiffres romains, tout est dans le nom, hein, j'ai envie de dire. les chiffres romains ont en fait survécu à la chute de l'Empire romain et sont, comme vous le savez, en utilisation encore aujourd'hui. Et en fait, la prémisse de base, c'était vraiment un système solide qui permette de compter va forcément traduire un développement technique et technologique d'une ville et d'un pays qui sera en avance sur le reste du monde. C'était un petit peu ça l'idée. Et puis voilà, les Romains, ils ont fait ça. En fait, ils ont juste fait ce dont ils avaient besoin et finalement, le reste du monde en a bénéficié puisque vous le savez et je me répète, il s'agit du système de chiffres que nous utilisons décidément encore aujourd'hui. La deuxième invention dont je vais vous parler, il s'agit du tout premier journal. Alors, attention, je n'ai pas dit du journal papier, ce serait complètement incorrect de dire que c'est les Romains qui ont introduit les journaux papier tels qu'on les connaît aujourd'hui, puisqu'il n'y avait pas de papier, tout simplement, donc c'est une bonne raison. Mais les Romains avaient un système relativement similaire au papier, ils utilisaient en fait des rochers, des espèces de métaux et de menhirs pour écrire les affaires courantes et donc pouvoir communiquer ainsi avec le reste de la population. Ces rochers, menhirs, métaux étaient en fait placés dans des endroits stratégique, donc pour que toute la population puisse y avoir accès. Et cette publication s'appelait le Acta Diurna, qui veut dire donc acte journalier. Et donc cette invention romaine, elle remplit finalement le même objectif que les journaux aujourd'hui, puisque c'était de partager les informations et les événements de la journée. avec la population. La troisième invention dont je vais vous parler, et là encore c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, il s'agit de la plomberie moderne et de la gestion sanitaire qui en découle. Les Romains en fait étaient absolument excellents en termes de génie civil, et c'est pas uniquement le Colisée ou les magnifiques arches qui nous montrent leur talent. Donc en fait voilà, c'est aux Romains que l'on doit le développement des gouttières, de la tuyauterie, de la plomberie moderne dans toutes les villes, et on peut leur dire un grand merci puisque ils ont permis finalement l'éradication de certaines maladies qui se baladaient juste dans les rues puisque les eaux usées s'y évacuaient. Bon, et alors la dernière invention, c'est dur d'en choisir que 5 hein, parce qu'ils sont clairement à l'origine de centaines d'inventions hyper intéressantes. La dernière invention dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les premiers outils chirurgicaux. Les Romains, donc, c'était pas uniquement du génie civil, c'était aussi de la médecine de pointe. Et en fait, un truc qui est hyper, moi qui personnellement m'a scotché, c'est que l'invention de la césarienne, et finalement, en fait, dans le nom, ça aurait pu me donner un indice, de la césarienne, donc lors d'un accouchement, un accouchement qui ne se passe pas par voie naturelle, mais donc on ouvre le bas du ventre, et bah, ça a été inventé à Rome. Et en fait, les outils d'intervention chirurgicale ont été inventés pour la médecine, certes, mais n'étaient pas vraiment utilisés dans les hôpitaux ni dans les centres médicaux. En fait, les empereurs romains étaient plutôt à la recherche de quelque chose pour aider les soldats qui étaient au front, pour pouvoir les soigner sur place, sur les terrains de bataille, et donc pouvoir limiter un petit peu la perte, si je puis dire, un peu crûment. Voilà, c'est tout pour la balade d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a des villes qui vous intéressent particulièrement. Je serai ravie de les présenter. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.
Merci Anne-Fleur pour cette chronique pour Rome. Alors bon, donc si vous avez des idées de villes, je ne sais pas si tu as fait l'Espagne, Anne-Fleur, je ne sais pas si tu as fait Madrid, je ne me rappelle plus. Tu nous as alors on en est à plus d'une vingtaine, je crois que c'est ta 25e chronique sur Graphite dans cette émission Biotine. Voilà, peut-être Madrid, je ne sais pas, j'ai un doute comme ça, mais ça peut être intéressant. Et peut-être du côté de la Grèce également et de l'Égypte, à mon avis, il y aurait sûrement pas mal de choses aussi intéressantes à voir. Merci Anne-Fleur pour InnoCity. On te retrouve dans quelques semaines sur l'antenne de Graphite. On va parler du Gulf Stream, hein, le courant de l'Atlantique Nord qui transporte de l'eau chaude du Golfe du Mexique vers l'Europe, qui apporte un climat relativement doux à une grande partie du nord-est du continent européen. Or, eh bien, on sait depuis longtemps que ce courant est fortement sensible à la température de l'eau de surface et la salinité. Et par l'effet conjoint de la fonte du Groenland et d'une augmentation des précipitations, eh bien, le Gulf Stream pourrait ainsi s'affaiblir, voire s'inverser dans les prochaines années, selon une nouvelle estimation parue fin décembre dans la revue Scientific Reports. La probabilité d'un arrêt temporaire du Gulf Stream dans les 100 prochaines années serait très élevé. Il y a de très nombreuses études qui se sont déjà penchées sur ce phénomène. En 2017, il y avait un article de Nature Communications qui a avancé une probabilité de 45% d'un refroidissement global en Europe de l'Ouest au cours du 21e siècle, avec pour conséquence une baisse des températures de l'Atlantique Nord de 2 à 3 degrés. En 2018, il y a deux études parues dans Nature qui ont montré que la circulation océanique méridienne dans l'Atlantique était à son plus faible niveau depuis 1600 ans. Et de plus, le Gulf Stream serait en train de se décaler vers le nord, avec pour conséquence des températures plus chaudes au large des côtes nord-américaines et plus froides au sud du Groenland. Alors pour leur nouvelle étude, les chercheurs des universités des Pays-Bas ont découpé le globe en milliers de boîtes, on va dire, à l'intérieur desquelles il y a un système climatique qui a été simulé. Et comme le courant de l'Atlantique Nord présente un comportement non linéaire, et bien cette méthode permet d'étudier comment un petit changement apparemment anodin peut induire un effet global significatif. C'est le fameux effet papillon, bien sûr. Le problème, c'est que les transitions que nous cherchions sont des événements rares. Il faut donc un très grand nombre de simulations pour estimer la probabilité qu'elles se produisent, et ce qu'explique Fred Rubbs, mathématicien à l'université de Groningen aux Pays-Bas, qui est justement l'un des auteurs de cet article. Les chercheurs ont donc utilisé un algorithme mis au point par des Français, l'université de Lyon, pour essayer d'identifier les simulations les plus prometteuses et réduire ainsi le nombre d'occurrences. Résultat, eh bien, Si les chances d'une disparition totale du Gulf Stream au cours des 1000 prochaines années est négligeable, la probabilité d'une interruption temporaire est à l'inverse beaucoup plus élevée, avec 15% de chances de disparition dans le prochain siècle. Cette prévision est d'autant plus probable que le Gulf Stream a déjà connu d'importantes variations au cours de l'histoire, et donc les conséquences de tout cela sont très incertaines. Le refroidissement du Groenland serait ainsi a priori plutôt positif, bien sûr, parce que ça ralentirait la fonte des glaces. Il y a certains modèles qui prédisent aussi un renforcement des vents d'ouest et des tempêtes en Europe de l'Ouest, ainsi que des étés plus chauds et secs. Bref, c'est pas toujours de bon augure tout ça, mais voilà, on pourrait peut-être assister à une disparition temporaire du Gulf Stream d'ici 100 ans. C'est les conclusions de cette dernière étude qui date de la fin de l'année dernière. C'est pas rassurant tout ça. Du coup, on va écouter un peu de musique pour nous remonter le moral. Vous êtes bien sûr Graphite, vous écoutez bien Veillotine et on se retrouve juste après ce titre. À tout de suite.
J'ai de l'or.
J'ai de l'or, c'était High Cowboy sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Butine tous les samedis pour vous tenir informé de ce qui se passe dans l'espace, mais aussi ce qui se passe dans notre corps. Et on va parler notamment de ce qu'on appelle l'antibiorésistance. C'est la résistance aux antibiotiques, bien sûr. Et cette antibiorésistance pourrait devenir plus meurtrière que le cancer d'ici 2050. C'est ce qu'avertit l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. En France, les bactéries résistantes aux antibiotiques ont entraîné, on estime, à peu près 12 500 décès en 2017, selon les chiffres de Santé publique France. Et ces bactéries, elles ont une double membrane externe qui est particulièrement coriace et qui les rend difficilement pénétrables. La dernière classe d'antibiotiques contre ces bactéries pathogènes date des années 1960. C'est dire si la découverte d'un nouveau traitement est susceptible de constituer une avancée majeure pour la médecine. Et bien, c'est justement ce que viennent d'annoncer trois chercheurs de l'université de Boston dans un article paru dans la grande revue Nature. Ces chercheurs ont déniché une nouvelle molécule tueuse de bactéries dans le tube digestif d'un ver qui vivait dans le sol. Cette molécule que les chercheurs ont nommée darobactine est produite par cette bactérie qui s'appelle Photorhabdus, et cette bactérie collabore avec le ver pour infecter des larves d'insectes, et lorsque le ver parasite pénètre dans son hôte, eh bien la bactérie relâche des toxines qui vont détruire la faune bactérienne rivale. En fait, ils s'allient tous les deux, le ver et la bactérie, pour pouvoir parasiter des larves d'insectes. Les deux organismes, ils vont se partager ensuite les nutriments, ils vont cohabiter parce que finalement c'est du gagnant-gagnant, ils vont pouvoir ainsi se nourrir et se répliquer. Donc les chercheurs, ils se sont particulièrement intéressés à cette bactérie car les composés qu'elle produit cochent de nombreuses cases pour constituer des antibiotiques utilisables chez l'homme. Ils ne sont pas toxiques pour l'hôte, ils restent suffisamment de temps pour décimer toutes les bactéries, se diffusent facilement dans les larves des insectes, ce qui suggère de bonnes capacités pharmacocinétiques. Et puis, afin d'identifier les substances les plus prometteuses, eh bien, les chercheurs ont isolé de grandes quantités de Photorhabdus, hein, cette fameuse bactérie. Ils ont concentré leurs extraits, ils sont tombés sur une molécule avec une structure qui n'était pas nécessairement ordinaire. Elle est constituée de deux anneaux soudés dont l'une possède une liaison carbone-carbone non active. En fait, Kim Lewis, qui est l'un des auteurs de cet article, dit que nous n'avions jamais vu ce genre de structure dans un antibiotique auparavant. Et la molécule en question, qui est donc la darobactine, elle est aussi grande et de façon un peu inhabituelle. Elle a une structure un peu complexe et pas totalement évidente, en fait. Et c'est ça qui a un petit peu interpellé ces chercheurs, qui ont donc mené des essais in vitro. Et ils ont constaté que la darobactine tuait de nombreuses bactéries, notamment l'une des bactéries Escherichia coli, mais aussi les salmonelles. Ils ont également testé leur nouvel antibiotique chez des souris infectées qui ont ainsi été protégées alors que les animaux non traités sont morts en moins de 24 heures. Donc c'est quand même des résultats vraiment intéressants et prometteurs. Même si la darobactine n'est pas efficace pour toutes les bactéries, elle pourrait constituer une sorte d'échafaudage de base pour un médicament encore plus efficace. C'est ce qu'explique Kim Lewis. Ce n'est probablement que le début des découvertes. Cette bactérie Photorhabdus existe depuis 370 millions d'années. Durant tout ce temps, il a probablement passé au crible toute la planète à la recherche d'antibiotiques qui leur sont utiles et qui nous sont donc utiles. Alors pourquoi s'embêter à scruter des milliers de molécules potentielles si un ver de terre peut le faire à notre place ? Fin de citation. Et donc effectivement, on découvre un nouvel antibiotique dans l'intestin d'un ver de terre et qui aurait en tout cas des répercussions très importantes pour développer de nouveaux antibiotiques qui seraient cette fois efficaces parce que les bactéries deviennent de plus en plus résistantes. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Vous vous rappelez de cette campagne de sensibilisation qui était très juste et très bien vu, parce qu'effectivement, plus on utilise d'antibiotiques, plus les bactéries se protègent et vont essayer de se défendre. Et donc, du coup, elles vont devenir de plus en plus résistantes. Et donc là, on va être obligé de trouver des nouvelles solutions. Celle-ci serait peut-être une nouvelle solution. On suivra ça, bien sûr. Autre chose, on va partir à Toulouse. Il y a un petit article là dans Futura Science que je trouvais intéressant. C'est Air France qui va tester des véhicules autonomes pour transporter les bagages. Alors ça, je trouvais ça quand même pas mal parce qu'il y a les véhicules autonomes, il y a les avions autonomes. Alors il était bien sûr logique que débarquent les véhicules autonomes sur les pistes d'avions. Eh bien, c'est Air France KLM qui est teste actuellement le premier tracteur à bagages autonomes et c'est une première mondiale. C'est donc un véhicule qui est expérimenté sur l'aéroport de Toulouse avec l'objectif commun d'une commercialisation au second semestre 2020. Alors, il a un nom, il s'appelle Autonome Tract AT-135. Je pense qu'il va falloir maintenant réfléchir à trouver un nom un petit peu plus commercial. Il est le fruit de 18 mois de recherche et de développement et comme tout bon véhicule autonome qui se respecte, ce tracteur intègre de nombreux capteurs avec des caméras, un GPS et après que le bagagiste lui a donné son trajet sur l'aéroport, eh bien le tracteur se faufile sur la piste entre les avions pour apporter les bagages ou à l'inverse est transporté jusqu'à la zone de tri. Grâce au capteur, ce véhicule électrique évite les obstacles. Il lui faut d'ailleurs avoir des yeux dans le dos lorsqu'il s'agit d'effectuer des marches arrière, sans oublier bien sûr la prise en compte de la signalisation, mais aussi les zones de parking évolutives. Au dernier moment, un avion peut bien sûr changer de stationnement. Enfin, côté performance, il peut atteindre les 24 km/h et il peut tirer jusqu'à 25 tonnes quand même, ce qui est quand même pas mal. Précision importante, le mode avion le concerne aussi parce que lorsqu'il s'approche des engins, eh bien ces capteurs ne fonctionnent plus pour ne pas entrer en conflit avec les outils de commande des appareils et c'est donc un agent de contrôle qui est chargé de le conduire jusqu'à la soute. Ensuite, le véhicule effectue le même chemin inverse de manière autonome. Mais voilà, Air France KLM teste donc des véhicules autonomes pour transporter les bagages sur l'aéroport de Toulouse. On aura tout vu, voilà, on les verra peut-être si vous voyagez sur Toulouse. Vous verrez ça, vous regardez hein, sur le tarmac et puis du coup, vous pouvez peut-être voir ces véhicules autonomes. C'est ça la technologie aussi. On est en train de faire des grandes avancées extraordinaires d'un point de vue médical, scientifique et technologique. Et puis, on est aussi parfois un peu terre à terre et on veut maintenant avoir des véhicules qui transportent nos valises tout seuls, comme un grand. C'est tellement formidable. Allez, on va écouter Mermonté sur l'antenne de Graphite et puis on se retrouve juste après pour continuer à développer l'actualité scientifique. Vous écoutez Graphite, à tout de suite.
Exhilarating, the tide will flow to your feet. Have you ever?
Acromatique, c'était Mermonté sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Vous êtes peut-être en train de déjeuner d'ailleurs, donc je vous souhaite un bon appétit, bien sûr, si vous êtes à table. Et on va s'intéresser à cet article paru dans Futura Science qui concerne les produits laitiers qui sont nos amis pour la vie. Bah, apparemment, hein, on connaît tous ce slogan qui a participé. Clairement participé à l'image santé que l'on confère aux produits laitiers. Et bien néanmoins, les croyances populaires comme ils sont très riches en calcium et bons pour les os, et tout ça, ça a pris du plomb dans l'aile depuis quelques années. Il y a même des mouvements et des doctrines anti-lait qui se sont également développées. Et avec la dérégulation du marché de l'information, on ne sait désormais plus qui croire. Et bien, il y a une étude qui a été publiée très récemment dans le British Medical Journal, qui regroupe les résultats de 3 grandes études qui ont été menées sur des personnes qui n'étaient pas malades. Et cette étude globale conclut que la consommation de produits laitiers est neutre pour la santé et qu'elle dépend surtout des aliments avec lesquels ils sont remplacés. Les produits laitiers sont neutres pour la vie. C'est ça, en fait, maintenant, le slogan qu'il va falloir retenir. On ne pensait pas, on avait vraiment l'esprit que c'était bien, c'était génial, c'était très bon pour la santé. En fait, non, c'est totalement neutre. Ils ont, en fait, ces chercheurs, compilé les résultats de 3 grandes études d'observation, comme je vous l'ai dit. Les chercheurs se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune différence entre la mortalité des petits consommateurs et des gros consommateurs de lait et de produits laitiers d'une façon générale. Une légère différence subsiste entre ces deux catégories concernant certaines maladies, dont les maladies cardiovasculaires, le cancer, mais rien d'assez important pour être significatif et pour déconseiller fermement la consommation de produits laitiers, donc il n'y a rien. Par ailleurs, il n'y a aucun bénéfice santé sérieux pour justifier une consommation accrue. De même, la consommation de produits au lait entier est associée à une mortalité générale, mais également spécifique plus importante. Pour ces associations également, les écarts sont faibles. Bref, on se rend compte que finalement, il n'y a pas nécessairement d'impact vraiment positif, ni négatif d'ailleurs, c'est neutre. Les nouvelles recommandations de Santé publique France s'inscrivent dans cette nouvelle vision plus scientifique que les propagandes un petit peu de l'industrie laitière qui concerne la consommation de produits laitiers. Alors, il est conseillé quand même d'en consommer 2 fois par jour des produits laitiers. Toutefois, le fait de ne pas en consommer ne pose aucun problème pour la santé humaine, nous dit-on. Ok, donc on le saura maintenant. Il faut donc en manger avec modération. C'est comme tout, pas de surprise. Et manger aussi pour le plaisir si on les aime. Le tout est de savoir par quoi remplacer les produits laitiers. Et donc Santé publique France explique que si on souhaite les remplacer, il faut plutôt opter pour des végétaux bruts plutôt que pour de la viande ou des produits transformés si on veut bien sûr prendre soin de notre santé. Mais donc voilà, l'analyse de 3 grandes études prospectives qui ont été menées aboutit à la conclusion que les produits laitiers ont un effet clairement neutre pour la santé de la population générale, ni bénéfique, ni négatif. Eh bien écoutez, c'est quand même tout un pan de l'histoire qui tombe comme ça sous nos yeux, parce que pendant des années, on n'arrêtait pas de nous bâcher les oreilles en nous disant « mange ceci, mange un yaourt, mange machin, voilà ». Eh bien non, en fait, ça n'apporte rien. Je trouve ça formidable, c'est un peu la conclusion. Oui, il faut toujours faire attention à ce qu'on nous dit, et à un moment, la science apporte la réponse. Et donc là, mis du temps quand même à venir la science pour apporter sa réponse, mais voilà. Conclusion, si vous êtes en train de manger des produits laitiers, mes enfants, c'est neutre. Mais c'est pas grave, c'est-à-dire c'est neutre, c'est-à-dire que ça fait pas de mal, mais ça fait pas de bien non plus, c'est neutre. C'est la conclusion de cette émission. Vous écoutiez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Je rappelle que vous avez la possibilité de pouvoir télécharger les podcasts de toutes les émissions de Graphite sur le site internet graphite.net. Nous écoutez également sur la bande FM 94.9 pour ceux qui nous écoutent dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, et de suivre bien sûr toute l'actualité de Graphite sur la page Facebook, sur le compte Twitter et puis bien sûr graphite.net pour nous écouter en direct ou en différé. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à nous intéresser à l'actualité scientifique, technique et médicale dans cette émission Biotine sur l'antenne de Graphite. On se retrouve donc samedi prochain. prochain à 12h, juste après VibraSOS. Je vous souhaite de passer une bonne journée et on se retrouve samedi prochain. D'ici là, bien sûr, vous restez fidèles aux émissions de Graphite. Bonne journée à vous, au revoir.